السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، en cette soirée du mercredi, inshallah ta'ala, mercredi 28/3/1430 de l'Hégire, ce qui correspond au 25/3/2009 bi'idhnillahi azza wa jalla. On se rencontre, normalement on devait avoir la suite du Dars, mais comme j'étais en voyage, donc on se rencontre dans cette série de questions-réponses, inshallah ta'ala, dans l'espoir que vos questions sont déjà prêtes, pour que je réponde vite, inshallah ta'ala, pour faire passer le maximum de gens qui questionnent. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner la sincérité et le succès dans la réponse, bi'idhna azza wa jalla. Tawfiq. Tfadl, inshallah, on commence avec d'habitude, comme d'habitude, avec le paltok, deux sur le paltok et un sur l'inspec. Tfadl, hayakoum la, je vous donne le micro.
La question c'est Ibn Abu Bakar. Salam alaykoum, hayakoum Allah, Sheikh. Pouvez-vous me conseiller en ce qui concerne l'étude de la science, la lecture du Coran et la constance dans son apprentissage? Par où commencer et quel effort faut-il fournir? Est-ce que la question elle est terminée? Et quel effort faut-il fournir, sachant que je travaille beaucoup, alhamdoulilah, en vue de faire la hijra? Et oui, la hijra coûte très cher de nos jours, surtout en Algérie, alhamdoulilah. Allah al-musta'an, barakallahu fikoum, Cheikhouna al-Aziz.
Wa alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. En fait, j'ai bien entendu la question, alhamdoulilah. Je dis que, inshallah ta'ala, ce n'est pas possible, par exemple, de prendre de l'avis qui dit que on va se vider seulement pour l'apprentissage du Coran. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va rester des années et des années, surtout de notre temps. C'est très difficile, il n'y a pas de temps libre, etc. On peut rester peut-être 10 années ou là pour le terminer et on n'aura rien appris parallèlement. C'est pour ça que je conseille, inshallah ta'ala, que pour ceux qui veulent apprendre le Coran, en même temps, ils apprennent parallèlement la aqida, au moins le fiqh. Au moins la aqida et le fiqh. Et ils mettent, ils consacrent d'autres temps, inshallah ta'ala, pour le Coran, pour l'apprentissage du Coran. Ensuite, tout le monde sait, inshallah ta'ala, que le fait de mémoriser le Coran, ce n'est pas une chose obligatoire. Ce n'est pas une chose obligatoire, bi'idhna azza wa jalla. Mais apprendre l'aqida est une chose obligatoire. Non. Mais si on avait par exemple un enfant, je conseille par exemple, s'il est jeune, s'il a par exemple 4 ans, 5 ans, de le mettre seulement dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, il a le temps pour apprendre après l'aqida et le fiqh, etc. Donc celui-là, on commence par lui apprendre par exemple seulement le Coran, jusqu'à ce qu'il le mémorise, inshallah ta'ala, dans une période peut-être de 3 ans à peu près, des fois jusqu'à 4 ans, des fois 2 ans, des fois une année, enfin entre une année et 4 ans. Wallah Azza wa Jalla alam, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide tous et toutes à faire le wajib envers la quête de la science et envers la mémorisation du Coran. Naam. Tafadhal inshallah le suivant.
Maintenant c'est la question de Abu wa Yaqub. La question c'est la suivante. Un instant que je la retrouve. Voilà. Donc, ils ont dit, Salam alaykoum, Cheikh. Une sœur est née hors mariage et n'a pas été élevée par son père. Est-elle dans l'obligation d'avoir l'accord de son père pour son mariage? Car elle a entendu qu'elle peut choisir son tuteur. Barakallahu fik. Ensuite, moi, j'ai demandé à Abou wa des compléments, Cheikh, pour que ça vous facilite la réponse. Et donc, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que les parents de cette sœur, ils l'ont eu dans le zina. Et quand la mère, elle était enceinte, ils se sont mariés. Ce sont des musulmans. Donc, il y a eu un mariage religieux quand elle était enceinte. Et donc, ensuite, elle est née. Et plus tard, ils ont divorcé.
Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Vous savez tous que quand un enfant ou une fille, par exemple ici, est née ce qu'on appelle hors mariage, quand elle a été conçue dans ce qu'on appelle un hors mariage, que l'homme n'est pas son père. Il ne peut être son père car il est quoi? Car il est seulement un père biologique. Mais que si jamais il se marie avec sa mère, comme ce qui s'est passé maintenant, ils se sont mariés après ou là quand elle était enceinte, le père alors devient quoi? Devient yani, ce qu'on appelle, comment on dit ça? La fille devient pour lui une rabiba. La fille devient pour lui une belle fille. C'est comme s'il s'est marié avec une femme qui a ramené une fille avec elle. Donc la fille peut se dévoiler devant lui parce que il s'est marié avec sa mère, donc ne peut plus jamais se marier avec elle. Donc celui-là, inchallah ta'ala, c'est quoi? C'est un étranger et il ne peut pas la marier. Il ne peut pas la marier, mais elle doit y aller chercher un autre qui doit la marier d'après les étapes qu'on a toujours dit, le père, le grand-père, ensuite le fils du grand-père, ensuite on va passer au fils, ensuite le petit-fils, ensuite on va passer au frère, ensuite le fils du frère, et comme ça, ensuite on va passer aux oncles, et bien sûr, à chaque fois, ce sont yani, les paternels et non pas les maternels. Sinon, c'est, comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le gouvernant ou le gouverneur qui la marie, c'est-à-dire le juge, le tribunal, sinon l'imam, sinon, dernière solution, c'est une personne pieuse qui la marie. Wallahu ta'ala alam, mais il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Tafadhal, inchallah, le suivant.
C'est la question de Wal Asr. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sheikh. Un couple est parti faire le pèlerinage il y a une dizaine d'années. Là-bas, ils se sont disputés plusieurs fois. L'épouse, voyant que les disputes s'estompaient, lui a dit que cette nuit, Allah fera tomber le mal sur celui qui a tort. Et en effet, durant cette nuit, le mari est tombé très malade, il a été hospitalisé à l'hôpital. Elle lui a pardonné et il s'est rétabli quelques jours après. La question est, l'épouse demande, elle souhaite savoir si elle doit refaire le Hajj, si elle doit refaire le pèlerinage, car normalement on ne doit pas se disputer lors du pèlerinage. À vous. Salam alaikum.
Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Puisque le frère s'est trompé et a fait passer une personne du paltok au lieu qu'il fasse passer une personne de l'inspic, on va, inchallah ta'ala, prendre deux personnes dans l'inspic. Al-Mohim, allez, je me fais mouchkil. Cette sœur, inchallah ta'ala, on lui dit, ou bien cette femme, que ton hajj, bi'idna ta'ala, est valide, na'am, et que la chose qu'elle a fait, ou qu'elle a faite, n'annule pas le hajj. Mais seulement, il se peut, Allah Ta'ala alam, qu'elle ait des péchés, c'est tout. Mais pour refaire le Hajj, elle n'a pas fait quelque chose qui annule la validité du Hajj. Naam. Tfadla, inshallah, maintenant, à l'explique, inshallah.
Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc je pose la question de Mohamed 222. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu ilaykoum, Cheikh. Lorsqu'une femme a eu plusieurs maris dans cette dunya et qu'ils étaient tous musulmans, lequel d'entre eux sera le sien au paradis? Y a-t-il un hadith sur ce sujet? Barakallahu fikoum wa jazakumullah khair al-jaza. تفضل شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم le hadith est sahih et je l'ai cité inshallah ta'ala plusieurs fois. Il dit المرأة لآخر أزواجها. Cheikh Al-Albani a dit hadith authentique. Qu'a dit le messager d'Allah? Il a dit la femme sera à son dernier époux. Donc le dernier qui s'est marié avec elle, ce sera lui son époux et non pas celui qui a été avant le dernier. Naam. Tfadla inshallah, l'autre question.
Naam, donc la question est assez longue, inshallah. Bismillah. C'est la question de Oumi. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Une sœur demande. Je fais partie d'une famille musulmane nombreuse dont la plupart des membres ne pratiquent pas. Qu'Allah les guide. Amin. Depuis toute petite, nous avons toujours eu des difficultés relationnelles entre frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons tous grandi et certains ont des enfants, mais à ce jour, il y a toujours des problèmes, des histoires, des conflits entre nous. Tous mes frères et sœurs qui ont été mariés sont divorcés. Certains ne parlent plus avec ma mère depuis des années. Nous n'avons pas vu certains depuis des années également. Mes parents ont toujours été en conflit et ils sont divorcés. Ils ont divorcé il y a peu de temps. Donc mes parents ont toujours été en conflit et ils ont divorcé il y a peu, subhanallah. Ma mère parle de mauvais œil, mais j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Pourquoi il y a tant de méchanceté et d'animosité chez nous? Quand j'évoque l'islam et ses bienfaits, mashallah, on me dit que je suis d'un autre temps. Et j'ai même un frère qui suit la philosophie des bouddhistes, Allah al-Musta'an. Je m'adresse à vous, Cheikh, pour savoir ce que je peux faire pour changer les choses, inshallah. Car s'il meurt kafirin, beaucoup de mes frères et sœurs, ainsi que mon père, iront en enfer. A'udhu billah. Cheikh, je ne comprends pas pourquoi on se fait tant de mal alors que notre sang est identique. J'invoque beaucoup Allah pour les membres de ma famille, mais rien ne change et la haine est toujours présente. Et j'ai besoin de vos conseils, Cheikh. Tfadal, Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Naam, en ce qui concerne cette sœur, je lui dis que en islam, tous en attestent, Inch'Allah ta'ala, que la guidance et l'égarement viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui détient ces deux choses-là. Naam. Et que celui qui guide, personne ne peut l'égarer, et que celui que Allah ta'ala égare, personne ne peut guider. Donc c'est lui, Allah azza wa jalla, qui est plus savant, quelles sont les personnes qui seront guidées, et quelles sont qui seront égarées. En sachant une chose très importante, que Allah Ta'ala n'égare jamais, 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 jamais quelqu'un qui veut la guidance. Car il a dit dans le Coran, si Allah Ta'ala sait dans vos cœurs du bien, il vous donnera du bien. Non. Toute personne qui cherche la vérité, qui cherche la guidance et qui fait des efforts en ce sens, Allah Ta'ala l'aide, lui ouvre ses portes et lui descend la sérénité sur son cœur et apaise son cœur. Naam. Mais si Allah Ta'ala n'a pas guidé une personne, naam, on ne doit pas s'étonner. Car Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs et nous on ne sait pas. Ensuite, Ibrahim alayhi salam, son père n'a pas été guidé, il sera en enfer éternellement. Et notre messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son père et sa mère n'ont pas été guidés. Et le hadith dit qui seront en enfer. Donc, yani, est-ce que je m'étonnerai si mon père ne sera pas guidé? Sachant que, comme j'ai dit, Naam, s'il avait le bien dans son cœur, Allah Ta'ala l'aurait guidé. Sauf s'il a vécu dans une période, par exemple, où il n'y a pas d'islam, où il n'y a pas de messager, où il n'y a rien qui nous exhorte à connaître Allah Ta'ala. Dans ce cas, Allah Ta'ala va les tester le jour de la résurrection, comme c'est dans le hadith sahih. Al-Muhim, pour clore cette chose, je voudrais dire à cette sœur qu'il faut, inshallah ta'ala, faire beaucoup de doua et avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et que peut-être que Allah ta'ala exaucera tes doua et va les guider. Ce n'est pas nous qui commandons, Nous allons dire pourquoi il ne les a pas guidés aujourd'hui, pourquoi j'ai fait des doigts et il ne les a pas guidés, pourquoi ça fait un an que j'ai fait des doigts. On ne dit jamais ça. Si jamais on dit ça, Allah Ta'ala va nous annuler et tout ce qu'on a fait comme doigts, il ne va pas les exaucer. Mais on fait des doigts et on a toujours confiance en Allah Ta'ala que, Inch'Allah Ta'ala, il va nous exaucer nos doigts et il va les guider. Je demande à Allah Ta'ala qu'il les guide.
Salam alaikum, c'est pas le talk, naam. Donc là, c'est la question de deux cours. Salam alaikum, Cheikh. Je suis une sœur. Quel comportement doit-on avoir envers les cousins? Est-ce que je peux leur parler seulement de choses nécessaires? Ou est-ce que je peux leur parler un peu plus, sachant que nous sommes en famille, il y a mes frères et mes neveux avec moi? Barakallahu fikum, Cheikh. Je voulais vous dire aussi que vous m'avez beaucoup manqué.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Naam, il ne faut pas yani, être extrémiste, comme je vous l'ai dit une fois, et exagérer au point de dire je ne vais pas parler avec mon cousin, je ne vais pas parler avec mon oncle, je ne vais pas parler avec le fils de mon cousin, comme ça, comme font certaines personnes. Naam, mais il faut être au milieu. C'est-à-dire, si je ne suis pas seul en tête à tête, s'il y a mon mari avec moi, s'il y a mes frères, s'il y a ma grand-mère, s'il y a rien, je ne suis pas seul, naam, je peux parler, Inch'Allah Ta'ala, naam, parler de choses qui ne sont pas haram. Naam. Ce n'est pas obligé que je ne parle que de choses nécessaires. Mais je parle des choses qui ne sont pas haram, c'est tout. Naam. Mais je ne vais pas aller très loin. Je ne vais pas très loin en parlant. Je parle des choses, yani, comme une femme qui est sage, comme une femme qui est raisonnable, comme une femme qui sait, quand elle parle, elle dit quelque chose, yani, même si c'est dans la dunya, elle dit des choses qui sont utiles. Elle dit pas n'importe quoi, elle commence à faire des blagues, elle dit des choses utiles. Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit de parler. Naam. Atfaddal, Inch'Allah, le prochain, Inch'Allah, atfaddal.
Naam, le prochain c'est chemin des salafs. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Cheikh. Qu'Allah Ta'ala vous préserve. Un frère demande, Cheikh, dans la colère, l'énervement, il a dit à sa femme de rentrer chez elle. Il demande si cela est considéré ou pas comme un divorce. Si oui, doit-il refaire un nouveau mariage? Barakallahu fikum, Cheikh. Aussi, il y a un frère converti qui vous a demandé dans un mail posé samedi, que signifie le hadith comme quoi il doit faire la hijra, sinon ses bonnes actions ne sont pas comptées? Quelle est sa signification?
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. En ce qui concerne la question de la personne, attendez que je me rappelle, c'était quoi la question? Qui peut me donner un mot sur la question? Est-ce que quelqu'un peut me dire un mot sur sa question? Le divorce, Nam, le divorce. Dans le divorce, vous savez que il y a des phrases qui, si on les dit, la femme est divorcée. Et il y a des phrases qui, si on les dit, la femme n'est pas divorcée. Même si on a la niya de divorcer. Et il y a des phrases qui, lorsqu'on les dit, elles dépendent de la niya et de l'intention. Je donne un exemple pour les trois, pour que vous compreniez. Les phrases qui, lorsqu'on dit, elles veulent dire que la femme est mariée, c'est quand, par exemple, l'homme dit à sa femme, tu es répudié, tu es divorcé, je t'ai divorcé. Ça, ce sont des phrases qui sont très claires, quoi, dans le fait qu'il l'a divorcé. Le contraire, les phrases qui ne divorcent pas, même si dans le cœur, il dit elle est divorcée, si je vais dire cette phrase. Par exemple, il lui dit, donne-moi la chaise, non, prends le pain, donne-moi le pain, remets la veste, ouvre le frigo. Ces phrases-là ne divorcent pas, même si dans la niya, dans le cœur, il se dit, en lui disant cette phrase, je veux dire qu'elle est divorcée. Elle n'est pas divorcée. Et ce qui nous intéresse ici dans le cours, c'est le genre de phrases qui dépendent de l'intention, car des fois elles veulent dire divorce et des fois ces phrases ne veulent pas dire divorce. C'est comme la phrase qu'a dite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la fille de John. La fille de John, c'est une femme, il s'est marié avec elle. Quand il est rentré chez elle, la nuit de la consommation, elle lui a dit que je me réfugie auprès d'Allah de toi. Je me réfugie à A'udhu billahi minka. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit Al-hiqi bi ahlik. Rejoins ta famille. Donc une phrase qui, comme celle-là, rejoins ta famille, si on l'a dit avec l'intention que ça veut dire rejoins-la dans le cœur jeudi parce que c'est terminé entre nous, donc elle veut dire le divorce. Mais si on l'a dit pas avec l'intention de divorcer, ce n'est pas le divorce. Comme exactement a fait Ka'b ibn Malik, l'un des trois qui ne sont pas partis dans la bataille que vous connaissez, sont cités dans le Coran. L'un des trois a dit à sa femme, Al-hiqi bi ahlik, il lui a dit, rejoins ta famille. Et pourtant, elle n'a pas été divorcée. Pourquoi ? Il voulait dire par là, rejoins-la, le temps que Allah Ta'ala descende un jugement sur nous, pour savoir, yani, quel est notre jugement, yani, si on est musulman, si on est kofar, si on est hypocrite, si on est quoi. On attend que Allah Ta'ala descende un jugement. Entre-temps, rejoins ta famille. Donc ici, c'est la même chose. Celui qui a dit à cette femme, à sa femme ici, va chez toi, ou quelque chose comme ça, on lui dit, qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Si dans le cœur tu voulais dire, va chez toi, ça veut dire dans le cœur, c'est terminé entre nous. Ça va compter comme un divorce. Mais s'il a dit, va chez toi, il disait dans son cœur, le temps que, yani, je vais me reposer, le temps que la colère parte. Dans ce cas, elle n'est pas divorcée. Et personne ne peut savoir cette chose, sauf Allah Ta'ala, ou bien lui. Naam. Ni le policier, ni le tribunal, ni le président de la République ne peut savoir en disant cette phrase qu'est-ce qu'il a eu dans le cœur. Seul lui peut donc connaître sa réponse, Inch'Allah Ta'ala. Donc ta réponse, mon frère, elle est chez toi, bi'idhnillah Ta'ala. Quant au frère qui a demandé, je lui ai promis de lui répondre sur le hadith, je lui demande de m'excuser car j'ai oublié. Je lui demande de m'excuser car j'ai oublié. Je lui répondrai, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois. Naam, je connais la réponse du hadith, mais je voudrais tirer des intérêts de ce hadith, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Inch'Allah, le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Tfadla, la prochaine question, Inch'Allah. N'oubliez pas d'inspeak.
Naam, donc c'est la question de Umtalaha sur inspeak. Salam alaykoum, Cheikh. Je voulais avoir un éclaircissement concernant la différence entre l'adoration universelle et l'adoration spécifique. Barakallahu fikum. Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne peux pas répondre à sa question, à cette question, car je ne l'ai pas comprise. Il faudrait qu'il me dise en arabe, comment qu'on dit cette phrase. Car j'essaie de traduire dans ma tête, je ne vois pas ce que ça veut dire l'adoration universelle, ni l'adoration yani spécifique. Je ne vois pas qu'est-ce que ça veut dire. Il faut qu'il me dise ça en arabe, Inch'Allah Ta'ala. Naam, fadla.
Naam, donc Umtalha, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah, sur InSpeak? Est-ce que vous pouvez donner des détails, Inch'Allah? Être plus précise. Ou donner des exemples, Inch'Allah. Fadla, cher.
En fait, moi, je me suis dit que peut-être il voulait parler de la volonté universelle et juridique. Wallahu a'lam, c'est ce que je me suis dit. Mais quand il a dit universel, ensuite il a employé le mot spécifique, il n'a pas dit juridique. Je me suis dit peut-être c'est autre chose. Quant au frère qui dit que si la nia a été de divorcer, comment qu'on fait? Je réponds, si la nia a été de divorcer en lui disant va chez toi, dans ce cas, si la période de viduité c'est terminé, s'il veut la reprendre et si elle accepte, il fait un nouveau pacte, nouveau acte de mariage avec les témoins, la dot, etc. et le tuteur. Mais si la période de viduité n'est pas terminée, il lui a dit va chez toi, et le même jour, ou le lendemain, ou le 15 jours après, la période de viduité n'est pas terminée. Dans ce cas, il n'a pas besoin de se remarier. Il la reprend, c'est tout, avec la niya de la reprendre, et ça lui compte comme un divorce. Naam.
Ah, cher, donc en PV, on m'a donné donc Ouboudiya Kaounia et Ouboudiya Khassa. Tfadal, cher.
En ce qui concerne l'Ouboudiya, l'Kaouniya et l'Ouboudiya Khassa, Wallahu ta'ala a'lam, c'est que l'Ouboudiya Kaouniya, c'est que par exemple, c'est par exemple tout ce qu'Allah ta'ala a créé, vous savez que tout ce qui a été créé, lui font l'adoration. Mais l'adoration se divise en deux. Des fois, l'adoration, elle vient de nous, c'est nous qui la voulons, et des fois, on est contraint de la faire. C'est comme par exemple les cieux, la terre, la mer, etc. Tous, ils font l'adoration du tesbih à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, comme a dit Allah ta'ala, dans le Coran, qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas une chose qui ne faisait pas le tesbih à Allah ta'ala. Ce tesbih-là, c'est une adoration, kawniya, universelle. Et l'adoration, l'autre, spécifique, c'est celle que nous choisissons. Si on veut la faire, on la fait. Si on ne veut pas, on ne la fait pas. En choisissant de la faire, on aura beaucoup de récompenses car on l'a fait yani, avec une volonté. C'est nous qui voulons la faire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense, Wallahu ta'ala alam, que c'est ça la différence entre les deux. Wallahu azza wa jal alam. Atfadlal.
Salam alaikum. Donc la question c'est Abu Asia 1. Abu Asia 1. Salam alaikum. Est-ce qu'on a le droit de sous-louer son appartement pour partir au Yémen afin de faire talab al-'ilm et ainsi avoir un moyen de ressources car là-bas il n'y a pas de travail? Et quels conseils pouvez-vous nous donner pour partir au Yémen? Ça, c'était la question de la ourte. Et après, moi, je lui ai demandé un détail qui vous aidera. Je lui ai demandé, est-ce que dans ton contrat de bail, on a le droit de sous-louer? Est-ce que tu as le droit de sous-louer cet appartement? Et la réponse est non. Dans le bail, elle n'a pas le droit de sous-louer cet appartement. Salam alaikum.
Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatouh. Tant que tu as fait, tant que tu as fait une condition avec une personne, le musulman doit toujours respecter les conditions. Même si il a fait une condition avec un kafir, à condition que le kafir ne soit pas un quoi? Quelqu'un qui nous combatte. Le kafir, il y en a plusieurs sortes. Non, le kafir, il y en a plusieurs sortes. L'oncle du messager d'Allah, alayhi sallam, c'était un kafir. Et Abu Jahl, c'était un kafir. Mais ils ne sont pas au même statut. Ils ne sont pas au même statut. Non. Maintenant, si le kafir, on fait avec lui une condition, comme quoi vous me louez cet appartement, à condition que telle et telle chose, on doit respecter les conditions, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. Quant au Yémen, non, j'ai toujours dit que celui qui va au Yémen, il faudrait qu'il ait, inshallah ta'ala, un cœur, yani, plein de patience. Il faudrait que ce soit quelqu'un, yani, qui soit, masha'Allah, parce que j'ai toujours dit que le Yémen, c'est un pays, yani, assez pauvre, et que là-bas, yani, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait, yani, tout. Il y a le ilm, masha'Allah, il y a d'après ce qu'on entend, mais question de matériel, hein, il ne faut pas dire pourquoi il n'y a pas de yaourt, pourquoi il n'y a pas de fromage. Pourquoi il n'y a pas les fraises et pourquoi il n'y a pas le jus d'orange? Non. C'est pour ça qu'il y a une grande différence, par exemple, entre le Yémen et l'Égypte. L'Égypte, c'est presque à peu près comme la France. C'est presque à peu près le même style, avec la différence qu'ils sont pauvres. Non. Mais il y a tout ce qu'on veut là-bas pour le côté matériel. Côté matériel. Mais il y a des carrefours, il y en a. Mais au Yémen, il ne faut pas aller. Confond beaucoup de couples qui sont partis là-bas et qui sont revenus très vite. Il faut aller pour persévérer, pour patienter, pour demander la science et pour Allah Ta'ala. Et ne pas dire pourquoi il n'y a pas pour acheter des couches pour les enfants, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas l'ascenseur, il n'y a pas. Et ils vont revenir, astaghfirullah. Naam. Très bien, inshallah Ta'ala, suivant.
Naam. Il y a un professeur à Médine, il a dit à ses élèves, il a dit à Médine, si tu viens pour faire talab al-ilm, tu auras le ventre rempli et tu apprendras. Mais au Yémen, à Damaj, tu auras faim mais tu apprendras vite. C'était la petite parenthèse. Donc maintenant, c'est la question de Al Bourtougali qui est en premier. Après, il a été déconnecté, mais il m'avait donné sa question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Après avoir uriné, peut-on se purifier de l'urine seulement avec du papier sans utiliser de l'eau? Barakallahu fikum, Cheikh, de votre réponse et qu'Allah vous récompense.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Naam, pour le papier, ou bien le mouchoir, qu'il soit en papier ou bien qu'il soit un vrai mouchoir, comme une serviette, etc. Naam, ça permet, naam, de se nettoyer avec, naam, à la place de l'eau. Comme on peut employer des cailloux à la place de l'eau, on peut employer aussi le mouchoir à la place de l'eau, comme dit Cheikh Ibn Othaymeen Rahimahoullah. Et beaucoup de savon, Inch'Allah ta'ala. Donc le mouchoir peut être à la place de l'eau, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadla le suivant.
Le suivant, c'est sur InSpeak, Inch'Allah.
Donc c'est Omeya. Donc la question. Salam alaykoum, cher. Est-il vrai que l'on sera ressuscité au même endroit où l'on est mort, entre parenthèses, et dans les mêmes circonstances? Pouvez-vous donner le dalil, Inch'Allah, barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Naam, je ne me rappelle pas du dalil. Je ne me rappelle pas du dalil, mais j'ai toujours lu ou bien entendu que on sera ressuscité d'après les mêmes circonstances. Naam, le même lieu, je n'ai pas entendu ça ni lu ça. Mais les mêmes circonstances, naam, c'est comme si par exemple quelqu'un qui faisait la zina, il va être ressuscité comme ça. Quelqu'un qui meurt avec une bouteille d'alcool, il va se réveiller comme ça. Mais Inch'Allah Ta'ala, j'essaierai de donner le délai, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour ça que, yani, le temps que vous posiez, vous cherchez la prochaine question, je vais noter ça, Inch'Allah Ta'ala. Tfadla.
Naam. C'est la question de Tawakkul. Il demande, salam alaykoum Cheikh. Je voudrais savoir, un instant, je voudrais savoir s'il est permis d'aider des personnes âgées parmi les voisins qui ont beaucoup de difficultés à porter leur caddie et leur sac dans les escaliers, alors qu'on ne sait pas ce qu'ils contiennent comme aliments. Sous-entendu qu'il peut y avoir du porc ou de l'alcool dans ces sacs, mais on ne le sait pas. Car je suis souvent gêné de voir des personnes très âgées dans cette situation inconfortable. Barakallahu fikoum. Et ensuite, moi, Abou Marwan, je vous rajoute, Cheikh. Et si, par exemple, cette personne âgée, c'est une vieille dame, est-ce qu'elle peut se tenir à mon bras pour monter les escaliers? Parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai une voisine qui est une personne âgée, qui a plus de 85 ans, et elle se tient à mon bras pour que je l'aide à monter les escaliers, sachant que c'est une femme et que je suis un homme, et que normalement, l'homme, il touche pas la femme, et la femme, elle touche pas l'homme. Pour rester dans la même question, Inch'Allah.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. En principe, quand on ne connaît pas une personne, par exemple, on ne connaît pas une personne, on ne sait pas ce qu'elle a dans le sac et on voudrait l'aider, en principe, on l'aide parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le sac et je ne suis pas obligé d'aller chercher ce qu'il y a dans le sac. Mais quand, par expérience, je sais, par exemple, que je vis dans un endroit avec des, par exemple, des cofards et qui, la plupart du temps, s'ils vont acheter, ils vont acheter le porc, ils vont acheter l'alcool, ils vont acheter ceci, cela. Dans ce cas, Allah ta'ala alam, il vaut mieux éviter. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala alam, il vaut mieux éviter. Naam, éviter par yani, pour ne pas yani, tomber dans le haram. Naam. Mais si je, par exemple, c'est comme dans un pays musulman, par exemple, on peut. Parce que je suis pas obligé d'aller demander qu'est-ce qu'il a acheté, etc. Naam. Et peut-être que même dans un pays de kafir, on peut, mais je dis qu'il vaut mieux éviter parce que la plupart des kofars, s'ils vont acheter, ils vont acheter le haram. La plupart des kofars, s'ils vont acheter, ils vont acheter le haram. Mais maintenant, si ce n'est pas quelque chose de manger, si c'est par exemple un sac où il y a des vêtements, où il y a yani des habits, etc., Inch'Allah ta'ala, on peut aider la personne. Wallahu a'lam. En ce qui concerne maintenant, en ce qui concerne la vieille, la voisine de Abu Marwan, en fait, même si elle a 85 ans, il ne lui est pas permis qu'elle s'accoude ou là que je la prenne par le coude ou là qu'elle me tienne par le coude. Mais maintenant, bien sûr, si dans le cas où je vois par exemple qu'elle allait tomber ou là qu'elle est tombée et qu'elle cherche le secours, etc., et que je lui donne ma main pour la sauver ou là la sortir d'un trou ou là la sortir d'un puits ou là de l'ascenseur ou là parce qu'elle elle était coincée ou là, tout cela, inshallah ta'ala, ça rentre dans la permission. والله تعالى أعلم. تفضل سويفا.
بارك الله فيكم شيخ. نعم بون جو لي لا كيسيون ان شاء الله. جو سي با سي لا كيسيون ا كي. السلام عليكم شيخ. Nous avons les moyens de faire la hijra. Mais mon mari repousse cela et souhaite d'abord utiliser ses économies pour aller en Tunisie cet été. Il prétexte une visite pour ses tantes et ses grands-mères et prétend ne pas être prêt pour la hijra à cause de ses projets professionnels. Ma question est, est-il permis d'utiliser nos économies pour les vacances et de laisser en second plan la hijra, sachant que la vie ici est néfaste à notre foi, notre pratique religieuse et notre couple s'en ressent. De plus, j'ai un bébé que je veux préserver de ce pays, Inch'Allah. Quel conseil avez-vous à nous donner? Barakallahu fikum.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moi, ce que je donne comme conseil, inshallah ta'ala, comme conseil, c'est de commencer par la hijra, bi'idhnillahi azza wa jal, qui est une adoration et l'une des meilleures adorations, surtout pour ceux qui vivent dans le pays de Kuffar. Car la hijra permet de fortifier ta foi, permet d'apaiser ta foi, permet de sentir la douceur de la foi, permet yani, mille et une choses. Quant aux tantes, inshallah ta'ala, on peut aller les voir un an après ou là après s'être installé, bi'idhnillah azza wa jal. Mais je n'oublierai pas ici de dire une chose importante. C'est quoi? C'est inshallah ta'ala, yani, quelqu'un qui fait la hijra, il se prépare plus ou moins. Naam. Il se prépare plus ou moins. Pourquoi? Pour que quand ils viennent ici, ils ne tombent pas dans des problèmes. Ils commencent à dire, je n'ai pas où habiter. Je n'ai pas où pour payer le loyer. Je n'ai pas de quoi manger. Ensuite, le shaitan va l'affaiblir et il va dire, j'étais mieux où j'étais. J'étais mieux en France. Il y a le RMI, il y a le... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore. Et il va y revenir là-bas. C'est pour ça que celui qui fait la hijra, inshallah ta'ala, il se prépare. Il se prépare bien, inshallah ta'ala, même s'il peut, yani, surtout, acheter une maison s'il peut. Non, surtout, acheter une maison. Car quand tu loues la maison, la location va s'arrêter un jour. On va te dire maintenant, il faut payer le loyer. Ensuite, tu vas dire, j'ai pas de loyer, j'ai pas de travail, j'ai pas ceci. Hein, surtout celui qui quoi qui bi'idna ta'ala achète la maison, même si c'est une petite maison, hein, il achète la maison. Et maintenant, si c'est vraiment qu'est-ce qu'il dit, sa définition, maintenant, comme je disais, la maison c'est la chose la plus importante, bi'idna ta'ala. Et si quelqu'un va dire que, au temps du messager d'Allah, les muhajirun, quand ils ont fait la hijra, il va dire ils n'ont rien pris avec eux. Ni ils ont acheté une maison, ni ils ont pris de l'argent avec eux. La réponse est très simple et claire. Naam, mais qui les a attendus là-bas? Là-bas, les ont attendus des gens qui s'appellent Al-Ansar, radiallahu ta'ala anhum, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout partagé avec eux. Celui qui avait deux femmes, il disait à l'autre, à celui qui a fait la hijra, il lui dit, choisis l'une des deux femmes, de mes deux femmes, je te la divorce. Et tu te maries avec elle. Et ils ont trouvé, qui ont partagé avec eux des femmes, qui ont partagé avec eux de l'argent, et qui ont partagé avec eux des maisons et le commerce. Et maintenant, c'est presque, là, je ne vais pas dire impossible, mais c'est très rare maintenant de trouver ces choses. Pourquoi? Tout le monde est plus ou moins pauvre, tout le monde dit 9C, tout le monde dit yani, moi je suis dans le pétrin, comment voudrez-vous que j'aide un autre? Chaque personne dit comme ça. Moi, je suis dans le pétrin. Moi-même, je ne travaille pas. Comment je vais aider quelqu'un? Moi-même, je n'ai qu'une pièce. Ou là, comment je vais y aller faire venir et héberger des gens? Et comme ça. Naam. Qu'Allah Azza wa Jal vous aide et vous ouvre ses portes. Et quiconque fait la hijra, fi sabilillah, pour le visage d'Allah, Allah Ta'ala ne le laissera pas, comme il a dit ça dans le Coran. Naam. Tafadhal le suivant.
Salam alaikum. Excusez-moi, Cheikh, j'aurais aimé avoir un complément sur cette question-là, parce que plusieurs fois vous avez répondu que la hijra, elle est obligatoire pour celui qui en a les moyens. Donc, est-ce que nous, on doit comprendre que le musulman qui travaille, c'est une obligation pour lui d'économiser de l'argent pour pouvoir faire la hijra? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième des choses, c'est comment ça se fait que je connais beaucoup de frères autour de moi qui veulent tous faire la polygamie. Il y en a même, ils prennent deux femmes, ils prennent trois femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends une deuxième femme et tu vas devoir dépenser de l'argent pour elle. Tu prends une troisième femme, il va falloir dépenser de l'argent pour elle. Alors que l'argent, vous êtes en train de nous dire qu'il faut l'économiser pour faire la hijra. Donc, est-ce qu'il y a une priorité dans ces deux choses-là? C'est très important. Cheikh Barakallahu Fikoum, avant de passer à l'autre question, Inch'Allah.
Walaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour dire la vérité, naam, yani ceux qui font la polygamie, beaucoup d'eux ne remplissent pas les conditions. Beaucoup d'eux qui font la polygamie ne remplissent pas les conditions. Et malgré cela, font la polygamie, alors que beaucoup d'eux ne travaillent pas et beaucoup d'eux n'ont même pas pourquoi. Pour payer le loyer, hein, et beaucoup d'eux, yani, sont même injustes, d'après ce qui m'arrive comme courrier, ce qu'on me dit et ce qu'on me raconte. Elle-même, il y a toujours des gens, bien sûr, qui sont sérieux, il y a toujours des gens qui se font la polygamie, fi sabilillah, parce qu'ils veulent sauver des femmes qui sont abandonnées, etc. Ceux-là, inshallah ta'ala, ils auront une récompense d'après la niyya qu'ils avaient. Mais beaucoup jouent. Et se marie, naam, 7-8 fois, comme on me l'a dit plusieurs fois. 7-8 fois, et jette la fille après 3-4 mois. 2-3 mois, il n'a plus envie d'elle, il la jette, il se dit, puisque c'est permis, je veux une nouvelle. 2-3 mois, il n'a plus envie d'elle, alhamdoulilah, il la jette et une nouvelle, et pourquoi pas comme ça, il joue toute sa vie. Naam, il joue toute sa vie, il dit pourquoi, alhamdoulilah, je n'ai rien fait de grave, je l'ai divorcé, elle a permis le divorce. Et je me remarie, et comme ça, il joue. Il y a beaucoup de joueurs. Les joueurs, il y en a beaucoup. C'est pour ça que maintenant, en France, les gens commencent à ne pas donner leur fille facilement. Quand on leur dit, il y a quelqu'un qui demande la fille, ils ont vraiment peur. Ils disent maintenant, on connaît comment ça se passe en France. Et, hein, les divorces qu'il y a, peut-être qu'il n'y a pas dans le monde. Surtout entre les frères et les sœurs. Surtout entre ceux-là. Elle-même. Alors, on revient à la question, on dit, Naam, toute personne qui vit en France doit faire tous les efforts pour économiser, pour quitter un jour, Naam, ce pays de kofr. Naam, toute personne qui vit en Europe doit faire des efforts pour économiser, pour pouvoir quitter un jour ce pays de kofr, pour ne pas mourir avec les kofars et entre les kofars. Naam, pour ne pas mourir avec eux, ni entre eux. C'est pour ça que le musulman n'accepte pas d'être avec le kafir, ni vivant, ni mort. Ni vivant. Il ne veut pas vivre avec lui, comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nos feux ne doivent pas se rencontrer. C'est-à-dire, moi, j'allume le feu ici chez moi, et l'autre en face de moi, le kafir. Il a dit, nos feux ne doivent pas, bon, il n'a pas employé le mot se rencontrer, c'est-à-dire faire face l'un à l'autre. Donc ça, dans la vie, naam. Et dans la mort aussi, chacun doit être dans son pays, chacun doit être dans son cimetière. Wallahu ta'ala alam. Atfadl, inshallah, suivant.
Donc c'est au tour de Ad-Dinul Haqq sur InSpeak. Donc Inch'Allah il va prendre le micro et je le débloque sur Paltalk. Atfadl Ad-Dinul Haqq, prends le micro Inch'Allah.
Non. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son, cher? Alhamdulillah. Non, moi, je vais poser une autre question. Tout le sujet de ce soir, franchement, c'est hyper intéressant et j'avais plein de questions à poser sur tout ce qui s'est passé, mais je vais rester sur mon idée de base. C'est une question beaucoup plus simple. Ma femme se posait la question, est-il vrai qu'il n'est pas bien de doucher les enfants après le Maghreb? Donc, je pose cette question-là parce que il n'y a pas de petite question, je pense pas. Est-il vrai qu'il n'est pas bien de doucher les enfants après le Maghreb? Que ça peut avoir des conséquences néfastes ou des choses comme ça? La question est finie, cher. Barakallahu fikoum. Salam alaykoum.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Avant cela, je voudrais poser la question à Dine al-Haq. Est-ce que c'est toi le frère qui en a parlé la dernière fois et qui vit en Angleterre? Si c'est toi, réponds-moi, inchallah ta'ala, avec numéro 1, le temps que. Naam, c'est toi. Le temps que je dise autre chose, inchallah ta'ala, avant de répondre à cette question. L'autre chose que je veux dire, inchallah ta'ala, ça fait vraiment mal de savoir quel est le nombre de sœurs qui sont divorcées en France. Ça fait vraiment mal. Yani, si on comptait sur 10 couples, si on compte, on prend 10 couples, on va trouver à peu près 7 ou 8 de divorcés. Subhanallah, yani, c'est vraiment, vraiment étonnant. Je vous ai dit la fois passée, quiconque yani, a dépassé une année, il doit bidnata'ala se prosterner et faire une petite fête. Faire une petite fête, masha'Allah. Je préfère qu'il ne fasse pas la petite fête parce qu'il y a le mauvais œil. Il vaut mieux qu'il cache. Non. Il vaut mieux qu'il cache ça. Al-Muhim, ce qu'il y a peut-être c'est plus grave. Et beaucoup jouent, comme j'ai dit tout à l'heure. Des joueurs qu'on peut même recruter comme on recrute un footballeur. Il y a des joueurs, des spécialistes. Il y a des Maradona, ou je ne sais pas comment ils s'appellent. Il y a des spécialistes, de vrais joueurs qui peuvent être recrutés. Subhanallah, al-Azim, c'est pour cela que je profite aussi pour dire que si jamais il y a quelqu'un qui est sérieux et qui demande une deuxième sœur, par exemple une co-épouse, il faudrait pas dire pourquoi, il faudrait l'aider aussi. S'il est sérieux et qu'il fait ça pour le visage d'Allah, il faut pas dire que pourquoi il fait cela ou bien cette sœur veut me voler mon mari ou quelque chose comme ça. Non. Mais il faudrait qu'elle soit, inshallah ta'ala, qu'elle soit une vraie sœur, une sœur pieuse, comme elle aime le bien pour elle, elle aime aussi le bien pour sa sœur. Car toi aussi, ma sœur, si tu as été divorcée et jetée dans un coin et personne ne te parle comme ça, et que yani, viendrait quelqu'un de te demander, même s'il est marié, tu serais intéressé. La même chose, comme tu aimes le bien pour toi, il faut aimer aussi le bien pour ta sœur. Et c'est en ce sens que Allah Ta'ala a légiféré la polygamie. Ce n'est pas seulement pour les choses charnelles, pour les plaisirs et les tentations, mais c'est surtout pour sauver les femmes qui sont comme ça, abandonnées, avec des enfants, toutes seules, l'âme. Et surtout, je vous demande, bi'idhnillah ta'ala, pour le visage d'Allah Azzawajal, que vous le fassiez. C'est quoi? C'est d'être miséricordieux, que vous ayez la rahma envers vos sœurs qui sont divorcées, abandonnées par leur mari, qui ont joué avec elles et les ont jetées. Non? Je vous demande de ressentir de la rahma envers ces femmes, et même si vous ne les mariez pas et vous ne les acceptez pas comme co-épouses, du moins vous les aidez. Et si vous ne pouvez pas les aider matériellement, on leur donnait de l'argent, du moins, yani, les aider verbalement, seulement en parlant avec ma soeur, en riant avec elle, yani, en souriant à elle, en l'invitant chez moi à un café, j'ai déjà fait quelque chose de très grand chez Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-Azim. Où est l'iman? Où est la foi? Où est la fraternité? Autant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les Ansarites ont dit, je lui ai dit tout à l'heure, ont proposé à des hommes, il lui dit, choisis celle qui te plaît de mes femmes, je la divorce et tu la prends. Celle qui te plaît. C'est pas tu me laisses la moche. Non, on prend celle qui te plaît, la plus belle, prends-la, Nam, je la divorce pour que tu la prennes. Le bien que je veux pour moi, je te le veux toi aussi. Il y a des sœurs divorcées qui ont vraiment besoin d'aide, qui sont abandonnées. Il y a même des sœurs divorcées qui, subhanallah l'adim, des sœurs ne leur parlent pas. Elle dit, celle-là, on ne lui parle pas. Et il la laisse comme ça, abandonnée. Il y en a toute seule. Si, des fois, elle pense même au suicide. Il y a des sœurs qui m'écrivent et qui me disent, est-ce que c'est permis le suicide, subhanallah l'adim. Est-ce que c'est permis le suicide? Et ils savent que ce n'est pas permis, mais yani, comment je fais? Donc imaginez quelqu'un qui arrive à penser au suicide, ça veut dire qu'il vit vraiment des moments difficiles. Et si maintenant, pendant ces moments difficiles, je ne suis pas présent devant lui, je ne le seconde pas, je ne l'aide pas, à quoi ça va me servir ce que je fais comme prière de la nuit? À quoi ça va me servir de jeûner le lundi et jeudi? Allah Ta'ala t'a demandé de l'aider et ne t'a pas, Naam, ne t'a pas obligé de jeûner le lundi et jeudi, mais il t'a obligé de l'aider. Il y a une grande différence entre aider une chose qui est obligatoire et seulement jeûner le lundi ou jeudi ou bien prier la nuit. Quand tu vois quelqu'un abandonné et tu ne l'aides pas, ça veut dire que vraiment, yani, ta foi est faible. Naam. Et certains, bon, je les connais pas, je parle comme ça de ma tête, mais je suis sûr qu'il y a certains qui aident les kofars. Je suis sûr que, parce qu'à dire, on le voit partout. Des gens qui, par exemple, ici en Algérie ou là, un frère comme toi, quand il te rencontre, il te dit pas salam alaikum. Et quand il rencontre quelqu'un qui fait pas la prière, qui boit de l'alcool, etc., il lui dit salam, il l'enlace, ils sont ensemble, ils boivent le café ensemble. Subhanallah l'azim. Où est l'amour en Allah et la haine en Allah. Subhanallah l'azim. Subhanallah l'azim. Toute personne qui aide une personne comme ça, abandonnée, qui aide sa sœur, abandonnée, toute seule dans une ville, personne ne lui rend visite, personne ne lui parle, personne ne l'aime, toute personne qui fait ça pour le visage d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala va lui ouvrir ses portes, dunya et akhira, dans cette vie et dans l'au-delà. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique qu'on lui avait demandé quelle est la meilleure des choses, ou bien la meilleure des actions, il a dit entre autres, naam, il a dit, faire rentrer un sourire, faire rentrer la joie dans le cœur de ton frère. Rencontrer ton frère avec un sourire. Quand je dis ton frère, ça rentre aussi ta sœur, la sœur avec la sœur. Naam. Faire rentrer la joie dans le cœur d'un musulman. Lui faire, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est-à-dire il a une chose à faire, tu la lui fais. Tu l'aides pour qu'il la fasse. Il voulait faire une chose, il n'a pas pu. Tu l'aides pour qu'il la fasse. Naam. C'est vraiment l'une des meilleures choses, si Allah subhanahu wa ta'ala, faire rentrer la joie dans le cœur d'un musulman. Le soutenir. Un musulman qui était, subhanallah l'azim, vraiment dans le besoin. Ensuite, il y a quelqu'un qui l'a aidé, bien azza wa jalla. Maintenant, je voudrais vous dire une chose, en passant, je profite pour vous dire que, d'abord, je réponds à celui qui m'a posé la question en ce qui concerne la douche après le maghreb. D'après la douche après le maghreb, c'est possible, inshallah ta'ala. Ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de laisser quelqu'un, hein, c'est de laisser les enfants pendant salat al-maghreb dehors. C'est tout. Mais maintenant, quand il fait très nuit, hein, ce n'est plus interdit. Ce n'est plus interdit. Donc pour la douche, il n'y a rien qui interdise de doucher quelqu'un après salat wa al-maghreb. Inch'Allah ta'ala. Quant à la personne Dinul Haq elle-même qui vient de poser cette question, naam, j'ai eu un entretien avec cette personne, ça fait pas très longtemps, dans le téléphone ou là, dans l'inspeak, ou là, je ne sais pas où j'ai oublié, et cette personne c'est un reconverti avec sa femme qui vivent en Angleterre, et ce sont aussi des gens vraiment yani, qui vivent des périodes difficiles, naam, et ce qui m'a vraiment étonné, Naam, c'est que ce frère dont je suis en train de parler, téléphone, Naam, c'est quand il m'a dit que ça fait longtemps qu'il ne travaillait pas et qu'il a beaucoup de dettes, etc. Et qu'il m'a dit cette phrase, yani, qui vraiment touche au cœur, parce qu'il m'a dit hier, c'est-à-dire le jour où il m'a parlé, hier il m'a dit, il y a une personne qui m'a donné un pain. Hier, il y a une personne qui m'a donné un pain. Un morceau de pain, là, comment on dit ça, un pain. Subhanallah, l'adim, j'ai dit, quand on arrive yani, au point où quelqu'un nous donne un pain, c'est que vraiment on vit des moments difficiles. Naam. Et Akhouna Abdullah 15, Hafidhahullah, vient de rentrer avec nous. Inch'Allah ta'ala, peut-être il m'entend ce que je suis en train de dire. Naam. Et je pense que notre frère Abdullah 15, naam, comme on dit, Meghassash, naam, et qu'il essaiera de faire, Inch'Allah ta'ala, quelque chose avec. Naam. Je lui demande lui s'il peut me laisser son numéro de téléphone, je lui rends visite en Angleterre, Inch'Allah ta'ala. Naam. Inch'Allah ta'ala, Dine al-Haq, tu contactes, Inch'Allah ta'ala, Abu Marwan. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider et de t'ouvrir ses portes, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, tfadl inshallah ta'ala le prochain.
Naam, assalamu alaikum. Cheikh, est-ce que je peux vous faire juste une petite remarque sur ce que vous venez de dire sur la situation des frères et des sœurs et du divorce en France et de la polygamie, etc. Inch'Allah, je serai rapide. Que moi, ça va faire 9 ans et demi que je suis dans l'islam. Et en 9 ans et demi, j'ai rencontré plus que 50 frères qui sont polygames. Et sur tous ces frères-là, plus que 50, j'en ai rencontré qu'un seul qui assure ses contrats de mariage jusqu'au bout. Il a 31 ans, il a 3 femmes, il a 11 enfants. Il a fait des enfants avec chacune de ses femmes et chacun de ses enfants, il est propre, il est habillé, il mange comme il faut, il apprend la religion et alhamdoulilah que ce frère, il assume ses responsabilités avec toutes ses femmes. Sinon, tous les autres que j'ai rencontrés, tous, la plupart majorité, que c'était de la plaisanterie ou c'était pas islamiquement correct, que même une fois, on était avec un frère qui est polygame, écoutez, cheikh, hein, on roule en voiture, on est à Lyon. Il nous dit, attendez, je vais m'arrêter, je vais voir ma femme. On s'arrête, il monte, il va chez sa femme. Il reste 1 heure, il revient. On reprend la voiture, on roule, on prend l'autoroute, on remonte vers Paris. Il s'arrête à Tours. Attendez, sortez de l'autoroute, je vais voir ma femme. On s'arrête à Tours, il va voir sa femme. Après, on reprend la voiture, on roule, on roule, on roule, on arrive à Paris. Attendez, Inch'Allah, je vais voir ma femme. Il descend, il va voir sa femme. Après, on continue à rouler, on va en direction de la Belgique. On arrive à Lille. Attendez, les frères. Je vais arrêter vous, je vais voir ma femme. On a dit, c'est la quatrième, là, ça y est, là, c'est fini. Vous voyez, Cheikh, il y en a, il joue comme ça, il s'amuse, il a des femmes dans toute la France, dans tous les pays, dans toute l'Europe. Et c'est un jeu, Allah le Moustaine. Khair, Inch'Allah. Je vais lire la question de Sorona, Sorona 2, Sorona numéro 2. Salam alaikum, Cheikh. Une sœur dit que son mari joue sans cesse au tiercé. Jeu de hasard. Entre parenthèses, le tiercé, c'est le jeu de la course à cheval. Dès que son salaire et les allocations familiales arrivent, son mari prend tout l'argent et le gaspille dans le jeu. La sœur a-t-elle le droit de récupérer l'argent des enfants pour le gérer elle-même et pour ainsi préserver sa famille et l'argent qu'il gagne, au lieu de le dépenser illicitement dans les jeux? Si oui, est-ce que la famille récolte des péchés, car ils achètent de la nourriture, des habits, avec l'argent que lui, il a gagné? Ah, Naram, ça c'est une deuxième question. La première question c'est, est-ce qu'elle a le droit de prendre cet argent pour pas que son mari y joue et qu'il dépense l'argent dans le jeu? Et la deuxième question, c'est, est-ce qu'elle a le droit, quand son mari y joue dans les jeux, des fois il gagne de l'argent, est-ce qu'elle a le droit de prendre l'argent que son mari l'a gagné dans les jeux et de le dépenser pour acheter de la nourriture, pour acheter des affaires pour les enfants? Est-ce que le fait d'aller... Ah non, après ça y est, c'est fini. Barakallahu fikoum, cheikh. Et juste, ce soir, vous allez dire, Abou Marwan, il rajoute beaucoup de choses. Cheikh, une fois, vous avez dit que Cheikh Albani, il voit que le jeu de comment ça s'appelle, le roi, là, échec et mat, comment ça s'appelle, le jeu d'échecs, Cheikh Albani, rahimahullah, il voit que ce n'est pas un jeu de hasard. Et vous avez expliqué parce que le jeu d'échecs, c'est un jeu de stratégie. Est-ce qu'on peut dire la même chose sur la course du cheval? Parce que moi, si je vous ramène le plus grand cheval qui a le plus de muscles, vous faites la course, et ben c'est lui qui va toujours gagner. Voilà, c'était un complément pour la question. Barakallahu fikoum. Salam alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne, puisque tu parlais de polygamie, ce n'est pas donc étonnant, ce n'est pas donc étonnant qu'on trouve que le Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou trouve que, yani de notre époque, yani le plus, disons, le plus raisonnable, c'est d'avoir une seule femme. Et quant à Cheikh Al-Albani, il a été très clair que de notre temps, yani, presque il a dit qu'il n'y a pas la polygamie. C'est pas qu'il n'y a pas dans le Coran et la Sunna, astaghfirullah, mais que yani, vraiment, il fallait yani, vraiment yani, des conditions qui se réunissent pour la faire et que de notre temps, elles sont vraiment difficiles. Non, celui qui est riche et celui qui est juste, il n'y a pas de problème. Non, celui qui est riche et qui peut prendre chaque femme dans son appartement et puis il a de quoi yani, lui donner ce qu'elle veut pour elle, ses enfants, mashallah, celui-là au contraire, peut-être que yani, il a beaucoup de récompenses s'il le fait pour Allah Ta'ala. Mais nous on parle de celui qui ne travaille pas et de celui qui n'a rien et de celui qui yani, n'a pas de quoi acheter un sandwich et qui parle de quoi? Et qui parle de polygamie. En ce qui concerne le jeu des échecs, dont j'ai parlé une fois, Naam, ceci à condition de ne pas jouer avec des trucs-là qui ont, par exemple, le roi qui a la croix sur sa tête, etc. etc. Naam, il faudrait enlever aussi les formes des parce que certains, comment qu'on appelle ça, certains, les trucs, hein, les dés, ou là, comment ça s'appelle, les trucs, hein, les pions, baraklav, certains pions, yani, voilà, comme le cavalier, on voit la tête du cheval, le roi, le fou, etc. Il faudrait au moins si on joue avec, il faudrait les entourer, par exemple, avec le sparadrap, hein, pour qu'on ne voit pas la tête, on casse la croix, etc. Et bien sûr, il ne faut pas que ce soit avec de l'argent, il ne faut pas que ça nous éloigne de la salade, il ne faut pas jouer beaucoup, et comme ça, avec les conditions. Non, quant à ce que tu as dit sur l'équitation, sur le cheval, etc., non, je dis qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'était permis, c'est permis pour les chevaux, mais à condition que ça soit seulement entre deux. Par exemple, moi et toi, on fait la course à condition que celui qui gagne prenne tel argent ou la donne tel argent. Non, mais ce qu'il y a de nos jours, c'est qu'il y a le troisième. C'est qui le troisième? Il y a celui, le spectateur. Il vient et il dépose l'argent et il gagne, etc. Ça devient haram. Ça devient haram à cause du troisième qui est rentré entre nous, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, je dis à la sœur que c'est possible, quand elle m'en met pareil, c'est possible de lui prendre son argent ou bien son argent, yani ce dont on a besoin pour acheter les médicaments, pour acheter les affaires des enfants, pour acheter le manger, etc. Tout cela, on le lui prend pour qu'il ne le gaspille pas. Ah, pour qu'on ne gaspille pas. Et même si la sœur, je ne la pousse pas, bien sûr, même si elle veut demander le divorce à cause de cette chose, elle peut le demander. C'est une raison plausible et légiférée bi-idhn azzawajal. Pourquoi? Parce que sachez que quelqu'un qui joue le tiercé, sachez que il va ruiner sa famille. Il va gagner une fois, deux fois, trois fois. Il va croire que khlas, il va s'enrichir. Et il va dire, puisque j'ai gagné 100 millions, pourquoi je ne gagne pas 500, c'est mieux. Et il va prendre ces 100 millions en essayant de croire, en croyant qu'il va gagner 500 et il va tout perdre. Et ensuite, si ça s'arrêtait là, alhamdoulillah. Mais ça va pas s'arrêter là, il va s'endetter. Et il va commencer à vendre les meubles de la maison et le frigo et tout pour jouer au tiercé. Le chétan va lui dire que cette fois, Inch'Allah, tu vas gagner. Cette fois, tu vas gagner. Et comme ça. Et il va ruiner la famille. C'est pour ça que ma soeur peut, si elle veut, si elle sent que khlas, il ne veut pas revenir vers la raison, et que, yani, elle a ramené ses parents qui lui ont parlé, etc., mais il ne veut pas revenir, elle peut, bi'idhnillah ta'ala, demander le divorce, bi'idhnillah azza wa jalla. En parlant du cheval, laissez-moi vous dire que, yani, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup le cheval, bi'idhnillah ta'ala. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis allé voir chez un ami un cheval, un petit cheval qui a seulement 2 années. Naam, mashallah. Et presque une fois par semaine, je vais chez des amis qui ont des chevaux pour monter les chevaux. Naam, pourquoi? Parce qu'on m'a dit que c'était un sport, mashallah, surtout pour quelqu'un qui a un mal au dos, etc. Naam. Que Allah Azza wa Jal nous aide et nous guérisse. À le prochain, inshallah.
Salam alaikum. Est-ce que c'est une speak là ou est-ce que c'est encore pas le talk? Je sais plus. Cheikh, vous m'avez fait rigoler quand vous avez dit que vous aimez beaucoup le cheval parce que chez nous il y en a un. Il est venu à la salade de l'Jemoua avec un cheval. Il a dit c'est la sunna. Alors que c'est la ville et il y a les voitures et les feux rouges et les camions. Khair, Inch'Allah. C'est le pal talk là, naam. Donc là, c'est la question de Abu Waoum Ibrahim. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Cheikh, ainsi que mes frères et sœurs. Hayakallah. La question donc. Par peur de tomber dans l'illicite le jour de mon mariage, je voudrais poser la question qui est: est-ce que c'est yajouz de mettre des CD religieux avec des bonnes paroles, mashallah, où il y a comme instrument de musique le doulf, mais sachant que ce sont des hommes qui chantent? Barakallahu fik, qu'Allah Azzawajal vous couvre de sa rahma ainsi que la umma.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. En ce qui concerne le douf, en général, il est permis. Certains ont dit que il est permis seulement à la femme. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Et d'autres, si je ne me trompe pas, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, ont dit qu'il est permis même à l'homme. Et ils se sont basés sur une fatwa de l'imam Ahmed, rahimahullah, où il dit que le douf est permis en général à l'homme. Alors moi je donne seulement mon avis. Si je dis juste c'est d'Allah Azzawajal, si je me trompe c'est de moi et du shaitan. Je pense que pendant le mariage, on ne doit pas vraiment yani, être sévère au point où yani, on va tout interdire, surtout une chose dont il y a des divergences. C'est pour ça que je pense que Allah Ta'ala alam, yani, que surtout que les gens yani, vont pas accepter, ils vont dire à nous, ils ont les frères et les sœurs, ils ont tout interdit, il n'y a rien, il y a. Non. Si Inch'Allah Ta'ala on prend avec l'avis qui dit qu'il est permis pour l'homme, Inch'Allah Ta'ala que ça se fait. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Tfadla le suivant.
C'est la question de Soulaim. Salam alaykoum wa rahmatullah. Voici ma question. Doit-on mimer, dire intérieurement ou à haute voix, sallallahu alayhi wa sallam? Tfadr, Cheikh.
J'ai pas compris la question, ou bien j'ai pas bien entendu. Tu as dit doit-on mimer ou quelque chose comme ça? C'est ce que j'ai entendu. Aoud, inshallah, tfadl.
Non, donc la sœur Soulaim, elle demande si on doit mimer, c'est-à-dire mimer avec les lèvres, comme le frère Abou Barawad l'a dit, dire intérieurement ou à haute voix, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'on dit sallallahu alayhi wa sallam, tfadr cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. L'essentiel, c'est de bouger les lèvres. Non, toute chose, si on l'a dit, on ne bouge pas les lèvres, ça veut dire qu'on ne l'a pas dite. Non, ce qu'on dit dans le cœur ne s'appelle pas un dire en islam. Pour que la chose soit dite en islam et parlée, il faudrait que les lèvres bougent. Ce n'est pas la peine de faire entendre les gens. Mais l'essentiel, je dois bouger mes lèvres et ma langue. Si je les fais bouger, ça veut dire j'ai dit la chose. Donc pour sallallahu alayhi wa sallam, ça me suffit de bouger mes lèvres et ma langue. Sinon, ça veut dire je l'ai dit dans la cœur et ça compte, dans le cœur à fond et ça compte pas. Tfadl, inshallah ta'ala. Et dites-moi si Abdullah 15 est avec nous. Tfadl.
Le prochain, c'est Abou Abdarrahman. Inch'Allah, écrivez votre question. Attendez. Il est où Abou Abdarrahman? Attendez, on va enlever le raid. Abou Abdarrahman, Inch'Allah, écrivez votre question ou donnez-la moi en privé, Inch'Allah. Pareil, Zahira. Voilà, j'ai la question de Abou Abdarrahman. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voici ma question. Jazakallah wa khayran. Ma femme a un frère qui prie de temps en temps, qui fume et qui boit. Qu'Allah Azzawajal le guide. Amin. Elle aimerait savoir ce qui est le plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aider son frère qui a des besoins financiers ou aider des frères et des sœurs qui ont eux-mêmes des besoins financiers ou qui sont malades. Elle craint que si elle donne de l'argent à son frère pour l'aider, il va dépenser cet argent dans le haram. Que dit la religion à ce sujet? Je vous demande dua pour lui, Cheikh, ainsi que tous ceux qui nous écoutent. Barakallahu fikum.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Naam. Elle peut, inshallah ta'ala, les aider les deux à la fois. Aider le frère dans le din qui est nécessiteux, etc. Naam. En lui donnant une part de l'argent, par exemple. Et aider son frère, le vrai frère, qui est du père et de la mère, mais à condition que, pour l'aider, on doit lui demander ce qu'il veut, et non pas on lui donne de l'argent. Mais on lui dit, par exemple, c'est quoi ton problème? Il dit, par exemple, il dit que, yani, je dois réparer la voiture. On lui dit, Inch'Allah ta'ala, prends la voiture chez le mécanicien, et je viendrai payer le mécanicien. Ou là, viens avec moi, on va au carrefour et prends ce que tu veux, c'est moi qui paye. Prends du pain, prends du fromage, prends des sardines et c'est moi qui paye. Mais on ne lui donne pas l'argent en main parce que on ne sait jamais ce qu'il va faire et à 90%, il va l'utiliser ou du moins, une certaine part, il va l'utiliser dans le haram. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse, Inch'Allah ta'ala. Et dites-moi encore une fois si Abdallah 15 est avec nous. Tfadhal.
J'ai envoyé un PV à Abdallah 15 et il n'est pas avec nous, cher. Tout à l'heure, il était avec nous, mais là, il n'est pas avec nous.
Je lui ai envoyé une invitation, Inch'Allah. Donc là, c'est la question de Oum Zahira. Salam alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille. Amin. La femme qui est en voyage, peut-elle faire sa prière assise dans la voiture ou doit-elle s'arrêter obligatoirement pour la faire? Barakallahu fikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'y a aucune différence entre la femme et l'homme dans les adorations. Comme a dit le hadith, Nisa'u shaqa'iqu ar-rijal. Sauf bien sûr dans des cas spécifiques comme lorsque la femme, lorsqu'elle a les menstrues, elle ne fait pas la prière, elle ne jeûne pas et comme ça. Donc, elle est comme l'homme. Quand vient l'heure de la salate, elle arrête la voiture, elle fait la salate debout. Maintenant, si elle est dans un autobus ou là qui ne s'arrête pas, qui ne peut pas s'arrêter, elle la fait assise, comme si elle est dans l'avion par exemple. Sinon, à chaque fois que la femme peut faire la prière debout, il ne lui est pas permis qu'elle la fasse assise ou la assise. Tfadlan, Inch'Allah ta'ala, suivant. Abdallah, qu'est-ce qu'il est occupé, laissez-le, Inch'Allah ta'ala, tfadlan.
Donc c'est au tour de Abou Zak, 45. Assalamu alaykoum, cher. Étant converti, mon père est à ce jour toujours en dehors de l'islam. Je suis son fils unique. S'il meurt dans cet état, je suis le seul à pouvoir m'occuper de ses funérailles. Est-ce permis? Et que faire pour son enterrement? Barakallahu fikum, Cheikh. Allahumma hafizna. Tfadal, Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand une personne meurt, même si c'est une kafira, même si c'est une mécréante, on doit l'enterrer. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand son cousin, Ali ibn Abi Talib, son père est mort, et il a dit au messager d'Allah qu'il venait de mourir, le messager d'Allah lui a dit, « Idhab fawarih, va l'enterrer. » Quand on ne peut pas laisser une personne comme ça, yani, sur le sol, et qui va yani, donner une mauvaise odeur, etc. Donc je dis à cette personne, premièrement, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, naam, qu'il lui fasse yani, la guidance et qu'il le fasse rentrer en islam. Sinon, s'il meurt chrétien, qu'est-ce qu'on fait? Naam, ou bien bouddhiste ou bien n'importe quoi, on doit l'enterrer. S'il y a maintenant d'autres gens qui vont l'enterrer à notre place, ça c'est mieux. Mais s'il n'y a personne, tu dois prendre cette personne et la mettre dans un trou et l'enterrer. Ce que tu ne dois pas faire, c'est d'aller à l'église, etc., et de faire des funérailles religieuses. Mais le prendre comme ça dans une voiture et le mettre dans le trou et l'enterrer avec la terre, tout cela est une chose obligatoire, sauf s'il y a d'autres qui le font à notre place. Wallahu azza wa jal a'lam. Tafadhal le suivant.
Le suivant. Là, c'est pas le talk, hein, si j'ai bien suivi. Non. Là, c'est Mohamed Ali. Salam alaykoum, cheikh. Que pensez-vous des nourrissons qui font des sourires, voire des rires, et d'autres expressions très directes à moins d'un mois de la naissance et qui regardent dans tous les sens alors qu'à cet âge-là, ils voient très flou? Est-ce que c'est vrai qu'il voit les anges? Et si oui, jusqu'à quel âge? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous rétablisse. Et Cheikh, moi je voulais juste vous dire par rapport à cette question que j'ai vu un bébé de mes propres yeux à la fin du mois de décembre 2008 qui venait de naître. Le bébé, il avait 20 minutes. Il venait de sortir du ventre de sa mère, on l'a nettoyé, on l'a mis dans une serviette, on me l'a donné, je lui ai dit salam alaikum, ça va petite fille? Elle a souri. Elle venait juste de naître, tout de suite. Elle n'avait même pas un mois ou une semaine, elle avait 20 minutes. Subhanallah. Donc la question de Mohamed Ali, c'est est-il vrai qu'il voit les anges? Et si oui, jusqu'à quel âge? Barakallahu fikum.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في أي مشكل عبد الله كنز، ما في أي مشكل إن شاء الله تعالى. نعم، جزاك الله خير. لحظة إن شاء الله تعالى جبت دوني لو ميكرو أبو عبد الله كنز. En ce qui concerne les enfants qui voient les anges, etc., je veux leur dire que je ne connais aucun dalil qui dit qu'un enfant voit les anges. Non, je sais que les anges, on va les voir quand on sera dans ce qu'on appelle, attends, comment on dit ça, quelqu'un qui est en train d'agoniser. Celui-là, il va voir les anges, et je sais que le coq, il voit l'ange et il commence à faire ce qu'il fait. Quand il voit l'ange, comme a dit le messager de là, et que l'âne, quand il voit la nuit, s'il commence à faire ce qu'il fait aussi, à hurler, ça veut dire qu'il a vu un shaitan. Donc, qu'est-ce qu'il voit alors? Non, je ne sais pas ce qu'il voit. Je ne sais pas ce qu'il voit. Mais ce que je sais, c'est que quand le bébé sort du ventre de sa mère en pleurant, car c'est le shaitan qui vient de le pincer, comme dans un hadith sahih. Il a dit que le shaitan doit pincer toute personne et tout bébé qui sort, sauf Maryam et son fils Isa. Non. Et s'il ne pleure pas, normalement il pleure. Normalement il pleure parce qu'il est pincé par le shaitan. S'il ne pleure pas, ça veut dire que peut-être il ne l'a pas bien pincé. Ou alors peut-être que il a, alhamdoulilah, il est assez gros, il a assez de graisse celui-là. Et il n'a pas été bien pincé. Non. Voilà, en général, Inch'Allah ta'ala. Mais toi, Wesmak. Mais toi, Inch'Allah, c'est pas Boumari, comment ça s'appelle? Toi, Boumarouan, Inch'Allah ta'ala, il faudrait qu'on, avec tes histoires et ce que tu racontes, nan, il faudrait, Inch'Allah ta'ala, qu'on te rentre dans le livre de Guinness, nan, car il n'y a pas une chose à laquelle tu n'as pas assisté qui t'est pas arrivée. Enfin, on va te rentrer dans Guinness. Naam. Abdullah Ken, si tu es là, prends le micro, inshallah, tafadhal.
Sami, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma question est-ce que je peux dire l'invocation après l'Aden qui est diffusée sur l'ordinateur? Si oui, est-ce que cette invocation a la même valeur méritoire que celle dite après l'Aden du minaret? Barakallahu fikoum.
Avant de répondre, alaykoum salam, wa barakatou, avant de répondre, inshallah ta'ala, je dis à Abdullah 15 que, Naam. Inch'Allah ta'ala, c'est toi qui vas prendre le micro. Inch'Allah ta'ala, pour terminer. Car chez moi, il est minuit. Naam, il est minuit. Et je dois, Inch'Allah ta'ala, me reposer un peu. Abdullah 15, c'est pour ça que je te demanderai de prendre le micro pour nous dire quelque chose avec laquelle on va terminer, Inch'Allah ta'ala. Pour le Adhan, les savants ont dit que si on l'entend en direct, par exemple, on est dans la voiture ou là à la maison, on entend le poste en direct. C'est maintenant qu'il est en train de faire le Adhan. Il a dit, on le suit. On dit comme il dit, et à la fin, on fait la dua. Et Inch'Allah ta'ala, on a, Inch'Allah ta'ala, les mêmes récompenses que si on l'avait entendu du minaret. Car quelle est la différence? Que tu l'entends du minaret ou que tu l'entends de loin et il a été transmis par la radio. Non, il n'y a pas une grande différence. Mais s'il n'est pas en direct, par exemple, vous allez entendre une cassette où il y a l'Aden. Là, ce n'est pas la peine de le suivre, Inch'Allah ta'ala. Voilà ce que je voulais dire, Inch'Allah ta'ala. Excusez-moi pour aujourd'hui, je suis fatigué. Je vais m'arrêter, Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Akh Abdullah 15, tafadhal, Inch'Allah ta'ala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isma'li ya Sheikh Muhammad. Wallahumma amin. لا طيب حياك الله. أولا أعتذر وأستسمحك لأني صراحة ما سمعتك أصلا الشيخ، فأعتذر. الإخوان أخبروني أنك يعني طلبتني في الغرفة وأنا صراحة ما سمعتك، وكنت في بعض الأحيان بعيد عن الجهاز، فأعتذر وأستسمحك يا شيخ، بارك الله فيك أولا. ثانيا أسأل الله العظيم أن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونجعلنا والإخوان الحاضرين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ورزقنا وإياك يا شيخ الإخلاص والمتابعة في الأعمال والأقوال. أقول شيخنا بارك الله فيك، ملاحظة فقط جزاكم الله خير، لأني دخلت الآن على البارتوك فوجدت بعد الغرف، غرف الروافد عليهم من الله ما يستحقون، وغرف الأحباش تنشط وتجتهد في الشر، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ونبقينا وإياكم على السنة. فيعني je vois qu'il y a des salons des أحباش qui sont ouverts, des salons des chiites comme le salon la room des débats, et malheureusement il y a des frères qui rentrent dans ces salons, ou bien pour débattre, ou bien il n'y a pas une cause justifiée pour un musulman qui est sur la sunna de rentrer dans un salon pareil, un salon de l'ahbash, ou bien un salon des gens de l'innovation, de la rawafid. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Et Salaf al-Salih, Allah al-Alim, disait que ceux qui parlent sur nos versets et qui changent le sens du verset et qui font la malinterprétation de ce verset, on ne doit pas s'asseoir avec eux. Inch'Allah al-Afiyah. Et Salaf al-Salah disait que ce verset est sur les gens, Ahl al-Ahwa'i ou Ahl al-Khusumat, etc. Et la moindre des choses, pour ceux qui rentrent dans ce salon, ils font de la publicité gratuite à ces gens. Et sachez que Ahl al-Ilm disait Man aktara sawada qawmin fahuwa minhum. Celui qui multiplie ou bien qui augmente le nombre d'un groupe, il est comme eux. Inch'Allah al-Afiyah. Et des fois, si on rentre, on essaie de avec une bonne intention, mais une bonne intention ne se fera pas. Elle n'est pas suffisante en elle-même. Et des fois, on fait plus de mal à soi-même que du bien. Alors je conseille les frères et les sœurs qui sont dans le salon, ne rentrez pas, barakallahu fikoum. Vous n'avez pas à rentrer. Al-Ahl al-Ilm, alhamdulillah, kafa Allah Azza wa Jal, wa kafa al-Mu'minin al-Qital. Il nous a mis des grands savants pour défendre cette sunna. Et si on rentre dans un débat et qu'on perd, on va prendre tout le poids de Ahl-Sunnah et Al-Jama'a sur nos épaules, alors que nous, on n'est pas à la hauteur pour représenter, pour faire ce genre de débat. Et si on le fait, on ne terminera jamais, parce qu'il y a un tas de groupes et un tas de gens qui ne sont pas sur la sunna, on ne terminera jamais avec ce genre de choses. Et en plus, faites attention que ces doutes peuvent entrer dans le cœur d'un croyant. Ces doutes peuvent rentrer dans un cœur, le cœur d'un musulman croyant, avec une bonne attention, il rentre et voilà une choubha. Et il lui faut un alam pour qu'il retire cette choubha. Ou bien on ne peut jamais retirer cette choubha, et peut-être il meurt, l'ayadu billah, sur cette ambiguïté, sur cette choubha. Inch'Allah l'afiyah, Inch'Allah l'ihfadna wa iyakum. Salafuna salih, quand il passait par des gens de innovation, ne parle pas. Mais je vous récite le Coran, c'est même pas un verset. Ils ne font pas confiance à ces gens, au point où quelques gens de salaf disaient, je préfère que mon fils traîne avec les gens, yani des vagabonds, les gens qui font des harams, plutôt qu'il traîne avec des gens de l'innovation. C'est pour ça qu'une personne qui est sur une innovation, il pense qu'il est sur le haq, surtout les gens de la masse. C'est pour ça que le Nabi Sassoum disait « Inna Allah hajab al-bid'a ala mubtadi'a » ou comme le Nabi Sassoum. Qu'Allah a caché, ça veut dire « Tawba » sur le bid'a, a caché « Tawba » la répandance sur une personne qui est sur l'innovation. Lui, il croit qu'il est sur le haq. Lui, il croit qu'il est sur le haq. En plus, vous rentrez dans leur salon, ils ne vont pas vous donner le temps, même si vous avez le haq, même si vous pouvez réfuter l'ambiguïté qu'il faut. Hein? Avec une manière ou d'autre, ils vont, tu vas être désolé, hein? Ils vont te dire, non, on ne veut pas un débat, on veut tout le monde qui participe, etc. Tu vas attendre et les gens qui sont tassés, ils vont, subhanallah, ils vont prendre plus de temps que toi et tu vas faire du mal, plus du mal que du bien. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, Al-Fa'arif, Al-Uraf, yani Al-Araf, yani de ne même pas s'asseoir avec eux, de ne même pas les fréquenter, de ne même pas leur parler. Alors évitez ça comme Allah. Malgré, on a déjà, barakallahu fikum, on a déjà, et nous attendons un peu de match, on a déjà, on a un peu éloigné, hein, Cheikh, il n'est pas directement. Il fait l'angle 90, Cheikh, pour vous dire qu'il n'est pas proche. On a déjà parlé de ça, malgré tout ça, qui rentre dans ces salons. Il y a toujours des frères qui rentrent dans ces salons. Et au lieu d'avancer pour apprendre, on recule, hein, en arrière, on recule pour répondre à des choubouhat, subhanallah, yani banal qui sont khalas. Maintenant, au lieu d'apprendre votre din, tu vas yani répondre une choubha à ce que Aïcha, radiallahu anha wa arvaha, elle a tué le prophète, comme dit la wa fait disait, ou bien est-ce que Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah a contredit l'ijma' d'après les menteurs de l'Ahbash, etc. Il y a des choses qui sont connues et vous n'allez rien aboutir. À la fin, vous allez perdre votre temps. Je vous dis, perdre votre temps. Perdre votre temps. C'est Allah Azza wa Jal qui défend les croyants. Allah, il le dit dans le Coran, Inna Allah, idha fi'u al-nadina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala va défendre les croyants. Aïcha radiallahu anha wa arzaha, elle a dit, quand les gens, au temps de Aïcha après la parole du prophète, ils ont commencé à critiquer les sahaba, elles attendaient à ce genre de choses. Mais il y a des qoms, des gens, un peuple, ils sont morts, et Allah subhanahu wa ta'ala a, yani, leur hasad en cessé, parce qu'ils sont morts, leurs actions, leurs œuvres, ils se sont arrêtés. Il a mis des gens pareils comme le Rawafid, qabbahoum Allah, hayak Allah, comme des gens comme le Rawafid, qabbahoum Allah, pour qu'ils critiquent, qu'ils parlent du mal sur les sahaba. Nous, on n'aime pas ça, bien sûr. Mais ça, c'est dans une façon ou d'autre, c'est un plus pour sahaba, ta Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils vont parler, ils vont les critiquer, ils vont mentir sur eux et ils vont être récompensés, comme vous connaissez Hadith de Mouflis qui viendra au Qiyama avec Salat, Zakat, etc. Mais il a parlé sur cette personne, il a traité cette personne de quoi, il a menti sur cette personne et Sahaba vont prendre leur haq et leur droit de ces gens. Ces gens qui critiquent même les prophètes, ces gens qui critiquent même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous attendez à quoi? Ahmadullah, remerciez Allah que vous êtes sur la sunna. Et protégez, hein, protégez ce que vous avez comme dîn, comme sunna. Asma'alkum, protégez-le. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide et qu'il nous garde, qu'il nous préserve sur cette sunna. Il ne faut pas, barakallahu fikum, il ne faut pas prendre des risques, zakum Allah khair, même si avec une bonne intention. Pour défendre le Sahaba, alhamdulillah, ou pour défendre le prophète. Regarde, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et ça parle de qui? D'Allah Azzawajal et de son messager. Il dit, le temps, si la Ummah, et ça s'y inclut, Alimuha, wa Hakimuha, wa Ammuha, tous les gens, même le Alim, même le savant, il est inclus. Quand on est dans un temps, et ce temps où la Ummah est faible, hein, ça, la Ummah est faible, on doit être tolérant, je veux dire dans le sens, yani on va utiliser les versets de la tolérance et les versets yani, de la tolérance et les versets de ne pas agir et réagir contre les kuffars ou bien ceux hein, qui font du mal. Ça, ça parle d'Allah Azzawajal et de son messager, même s'ils sont des koufars. Faites attention. Barakallahu fikum, ikhwani. Et vous demandez aux gens d'Ahl al-Ilm, vous demandez au Cheikh Mohamed Chalabi, vous allez voir, barakallahu fikum, que c'est pareil, ces paroles viennent de l'haq, inshallah. Et ceux qui connaissent des gens hein, qui rentrent dans ces salons, yani, barakallahu fikum, on sahouhum pour qu'ils ne rentrent pas. Pour qu'il ne rentre pas. Inch'Allah, s'il a le temps, il y a des salons, des frères qui sont connus, Inch'Allah, qui ouvrent des salons pour réfuter et répondre à quelques choubouhat pour le bien de ceux qui rentrent, qui est le manhaj salafi, le manhaj al-sunnat wal-jama'a. Alhamdulillah, on va dire ce que Ahlul Ilm ils ont dit, on va réfuter sans avoir un débat et sans faire ce genre de choses. Faites attention, ne pas tomber, même si vous avez le haq. Il ne faut pas prendre ce genre de choses yani, pour débattre les gens, hakaza, comme yani, une habitude. Salaf disait, Man akthar al-jidal, akthar al-tanakul. Celui qui fait beaucoup de polémiques avec les gens, il va se déplacer trop. Il va se déplacer trop. C'est pour ça que vous voyez, l'ayyadu billah, des gens qui se déplacent. Par exemple, il était un soufi, maintenant il est devenu un chiri, ou il était ikhwani, maintenant il est à 100% tekfiri, etc. Parce qu'ils aiment ce genre de choses. L'insan, comment dirais-je, qu'il protège ce qu'il a comme dîn, et qu'il demande à Allah Azzawajal de le préserver sur la sunna, jour et nuit, et qu'il avance en avant, en apprenant le dîn. Commençons par Kitab Allah Azzawajal. Commençons par une sincérité en apprenant ce ilm, ayant des bonnes manières en soi-même, avec les parents, avec les ulama, etc. Et on avancera, Inch'Allah. Yani, mais généralement, ceux qui n'ont pas, mal asaf al-shadid, qui n'ont pas bien connu le manhaj salafi, qui font ce genre de choses, ou bien ceux qui pensent qu'ils connaissent et qui rentrent dans ce genre de salon, avec une bonne attention, et je dirais, Inch'Allah, an yahfadna wa iyahum, je ne veux pas tarder, barakallahu fikum, pour que le Cheikh repose un peu. Inch'Allah, an yaj'alni wa iyahum, mimman yastami'un al-qawla, fayyattabi'un ahsanah, wa yathabbitni wa iyahum ala sunna, wa yallimani wa iyahum ma yanfa'una, wa yizidna ilma, wallahu ta'ala, a'la wa a'lam, wa subhanaka, Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسبحانك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير أخانا عبد الله كنز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكلامك وأن يرزقنا الإخلاص ويوفقنا لما فيه خير الآخرة والدنيا. وموعدنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يوم الأربعاء.